Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndali Kamala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. À la une de ce journal, les activités du PPRD sont suspendues en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique une notification du tribunal de grande instance de Kinshasa envoyée au secrétaire permanent de ce parti. Mais cette décision est rejetée par le parti concerné qui la qualifie d'illégale. 5 ans après son arrêt, le comité chargé de suivre les violations des droits de l'homme commises par des éléments de FARDC renaît enfin de ses cendres dans la région de Beni, Butembo et Lubero, au Nord Kivu. L'objectif est d'assurer que le respect des droits humains accompagne chaque opération militaire des FARDC sur le terrain. Le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République est l'invité de ce journal. Dans une interview accordée à Radio Kapi, Christian Mwanontsimba revient sur la crise à l'Assemblée nationale, mais aussi explique l'organisation de sa structure pour occuper le poste de rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement qui revient à l'opposition. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour. Les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD sont suspendues en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique une notification du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe envoyée ce lundi au secrétaire permanent de ce parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Selon ce document, il s'agit de la signification de l'arrêté pris par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité du 18 octobre portant suspension des activités du PPRD. Au mois d'avril dernier, le ministre de l'Intérieur avait, dans un communiqué, suspendu les activités du PPRD accusé de complicité avec la rébellion de l'FCM23 active dans l'est du pays. Cette décision est rejetée par le parti concerné qui la qualifie d'illégale. On écoute Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, au micro de Grâce Hamzati.
En tout cas, cela ne nous concerne pas parce que c'est une violation de plus de la constitution congolaise où on voit un vice-premier ministre qui avait décidé, qui n'avait pas suivi la procédure, sa procédure était tombée caduque et qu'aujourd'hui on nous dise qu'il y a encore un autre arrêté qui n'est pas signifié du reste. Ça ne nous concerne pas, c'est de la paperasse. Si ça vient du pouvoir, alors ça ne fera que le reflet de la peur lorsqu'on apprend que Kabila rentre, lorsqu'on apprend qu'il y a une nouvelle plateforme Sauvo, la RDC, comme s'il y avait quelqu'un qui est contre cet appel pour tous les Congolais qui se mettent ensemble pour sauver le pays dans ce désastre dans lequel il est, le chaos dans lequel il est aujourd'hui. Le pays est déjà divisé, occupé du reste par plusieurs armées. Qui serait contre cet appel-là? Voilà, donc pour nous, c'est une décision qui ne nous concerne pas. On n'est même pas au courant de ça. Et ça n'a même pas d'effet juridique parce que qui va obéir à un ordre manifestement illégal?
Pour rappel, le ministère de l'Intérieur avait dénoncé dans son communiqué l'attitude jugée ambiguë de Joseph Kabila qui, selon lui, n'a jamais condamné le M23 ni le soutien du Rwanda à cette rébellion. Il avait également fustigé le choix de l'ancien chef de l'État de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de la rébellion. Processus électoral à l'Assemblée nationale. Si les députés de l'Union sacrée sont en course pour la présidence de la Chambre basse du Parlement, l'opposition aussi s'organise pour la succession de Dominique Munongo au poste de rapporteur adjoint. Le groupe parlementaire Ensemble pour la République de Moïse Katumbi désigne officiellement la députée Clotilde Mutita Kalunga, élue de Lubumbashi, comme candidate. C'est à l'issue des primaires organisées ce lundi à Kinshasa. Entre-temps, d'autres députés de l'opposition annoncent leur candidature à ce poste en tant que non-inscrits. Grâce à Hamzati Masanzi.
Partis au nombre de 5, certains se sont désistés pour laisser Clotilde Mutita faire face à Michel Katebe, élu de Pweto, à ses primaires. Au finish, c'est l'élu de Lubumbashi qui l'emporte. Elle s'est dit confiante après avoir reçu, déclare-t-elle, la bénédiction de sa famille politique. Clotilde Mutita.
Celle qui a démissionné dignement, honorable Inamizi, est partie. Et donc, ça fait moins un siège femme, plus un siège femme. Et je crois que ceci a plus motivé ma candidature. Peut-être ce qui a aussi motivé les honorables députés de mon groupe parlementaire. Maintenant, nous allons être sur terrain pour convaincre les honorables députés de notre assemblée. Vous savez, le vrai défi dans notre pays, c'est l'unité. Nous devons travailler à ça. Nous devons travailler pour le bien du peuple. Et donc, ici, j'y vais, pas pour le combat, pas pour mettre les mal à l'aise, mais je crois que pour que cette diversité, pour que ces différences soient une richesse pour nous, un exemple de vivre ensemble.
Parmi d'autres députés de l'opposition qui se déclarent candidats figure Christelle Vuanga. L'élu de Funa à Kinshasa dit vouloir mettre son expérience au profit du bureau de l'Assemblée nationale pour avoir été lors de la législature passée présidente de la commission parlementaire genre, famille et enfants. Mais aussi Gracien Iratian, élu de Bunyan-Ituri, qui affirme sa détermination à soutenir les institutions de la République avec honnêteté, responsabilité et patriotisme.
Pendant ce temps, l'Assemblée provinciale de la Tchopo a voté hier lundi pour la motion de défiance contre les gouverneurs de province. Les 18 députés provinciaux présents à cette séance plénière sur les 29 que compte cette institution se sont prononcés donc pour cette motion. Par conséquent, Paulin Lendongolia est déchu de ses fonctions de gouverneur de la province de la Tchopo. Cependant, cette sanction intervient à l'absence du concerné qui poursuit son séjour à Kinshasa. Les précisions avec Jacques Moukonkolé.
Pour les députés pétitionnaires, toutes les promesses faites par le gouverneur pendant sa campagne n'ont connu aucune exécution par rapport aux 5 axes prioritaires de son action gouvernementale. Par contre, Bienvenu Bolongué, porteur de cette motion, l'accuse de détournement et de mauvaise gouvernance.
À part les détournements des fonds liés à 1 million qui était venu avant pour la modernisation de notre stade, il y avait un autre fonds, 4 millions. Le niveau national était obligé de retirer ça, de remettre ça au niveau du trésor public, cause des détournements déjà des fonds qu'il avait envoyés avant.
Cette motion est votée à l'absence de l'intéressé. Pourquoi ne pas attendre son retour à Kisangani pour que cette procédure soit poursuivie? Pour le président de l'Assemblée provinciale, son absence ne se justifie pas.
On nous a demandé de regagner notre milieu. Et pour gagner, il fallait avoir un document qu'on appelle l'autorisation de sortie. On nous a tous demandé de donner nos noms. Chacun a donné son nom pour qu'on puisse faire les documents. Moi, j'ai fait le suivi pour récupérer le document parce que je devrais rentrer après l'autorisation que j'ai reçue. Est-ce que c'était à moi de pouvoir envoyer au gouverneur ou bien de l'inviter?
Le président de l'Assemblée demande au gouverneur de déposer sa démission auprès du chef de l'État dans les 24 heures selon les textes réglementaires. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
5 ans après son arrêt, le comité chargé de suivre les violations des droits de l'homme commises par des éléments des FARDC renaît enfin dans la région de Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu. Cette relance actée ce lundi à Païda, à 5 kilomètres du centre-ville de Beni, a réuni autorités militaires, représentants des Nations Unies et acteurs de la société civile autour d'un objectif commun. Assurer que le respect des droits humains accompagne chaque opération militaire des FARDC sur le terrain. Les détails avec Martial Papimoukeba.
La réunion des relances du comité présidé par le général Joseph Mugisa, commandant du secteur Sokola Ingrand Nord des FARDC, a rassemblé les commandants de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FAIB, la coordonnatrice de l'unité de diligence voulue en matière des droits de l'homme, les officiers du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui en assure les secrétariats, l'auditeur militaire des garnisons de Beni, les responsables locaux d'Ucha, ainsi que plusieurs commandants des FARDC et membres de la société civile. Les participants ont décidé de renforcer la sensibilisation des troupes et de lutter contre l'impunité pour les violations des droits de l'homme et les violences sexuelles liées au conflit avec un monitoring régulier pour prévenir tout abus sur le terrain. Suspendu depuis 5 ans, ce comité reprend ses activités alors que l'armée mène plusieurs opérations contre les groupes armés dans le Grand Nord en fait de renforcer la protection des civils et prévenir toute violation des droits de l'homme par les forces engagées. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Capi.
En Ituri, plus de 2000 personnes issues des peuples autochtones et d'autres communautés locales ont fui leur milieu naturel dans les forêts des territoires d'Irumu et des Mambasa envahis par les rebelles ADF. La dernière vague des déplacés afflue depuis un mois vers Ndiapandabela sur l'axe Mambasa-Beni à la suite des récentes attaques dans les secteurs des Bapiri au Nord Kivu et vers Loloa en Ituri. Ces familles sans moyens de subsistance, dans un environnement où tout s'achète, vivent dans des conditions extrêmement précaires, alertent les ONG locales. Isaac Remoyope pour plus de détails.
Au moins 2200 déplacés, dont des peuples autochtones, ont fui les récentes attaques et la présence des rebelles des ADF dans la forêt vers Ndoyo et Mangurujipa dans le Nord Kivu. Ils sont aujourd'hui installés dans trois sites, Ndiapandabela, Ngwaba et Mateise, dans les territoires de Mambasa. Ces personnes, parmi lesquelles des enfants souffrant de malnutrition, des femmes enceintes et des personnes âgées, vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans vivres, sans médicaments ni articles ménagers essentiels. La plupart dorment à la Belle Étoile ou dans des abris de fortune mal couverts. Les responsables du site indiquent que les moyens de résilience sont très limités, aussi bien pour se déplacer que pour les habitants locaux, privés d'accès à leurs champs désormais occupés par les rebelles des ADF. Même situation dans les territoires d'Iromu, notamment autour du mont Oyo, où plusieurs familles autochtones ont fui vers Ofaïch et dans les villages environnants. Elles y vivent dans une extrême précarité et attendent avec impatience le retour de la paix pour regagner leur milieu natif. Les autorités locales et les acteurs de la société civile lancent un appel urgent au gouvernement et aux organisations humanitaires pour une assistance en vivres et autres biens de première nécessité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La ville de Kinshasa accueille du 27 au 30 octobre la première édition de la Semaine nationale du climat. Ce forum offre aux Congolais l'opportunité de faire de l'environnement un pilier du développement de leur pays. Pour y parvenir, la ministre de l'Environnement encourage chaque citoyen à s'impliquer activement dans la lutte contre les changements climatiques. Le chef de l'État souhaite que cette semaine constitue un véritable cadre d'échange en vue de préparer la participation de la RDC à la conférence internationale du sur le climat prévu en novembre à Belém au Brésil. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le secrétaire général à l'environnement estime que la tenue de cette semaine nationale du climat représente une occasion idéale pour les Congolais de préparer les assises de la conférence internationale sur le climat prévue dans quelques semaines au Brésil. Pour Benjamin Touérambé, il s'agit d'un choc d'idées à travers les dialogues en vue de mobiliser le financement climatique au bénéfice de toute la République. La ministre de l'Environnement, Marie Nyangé, considère ce forum comme un moment décisif pour amener les Congolais à parler un seul langage lors de la COP30. Elle souhaite que les Congolais puissent bâtir une économie verte et inclusive où chaque emploi contribuera à la protection de l'environnement. De son côté, le chef de l'État a souligné que ces assises de 4 jours doivent être un point de départ d'un pacte d'action visant à responsabiliser les Congolais. Félix Tshisekedi a en outre encouragé les différents bailleurs à investir en RDC afin de favoriser la création d'emplois, le renforcement des compétences et l'éco-développement. Cette semaine nationale du climat est placée sous les thèmes forêt, biodiversité, tourbière et mobilisation de financement climatique pour le développement durable de la RDC.
Un mot sur la santé dans ce journal. Dans le cadre des activités marquant Octobre Rose, l'ONG Amour Plus et Femmes Acacia ont organisé le week-end une conférence débat sur le cancer du sein au profit des jeunes de la ville de Kananga. L'activité a eu lieu dans la salle de réunion du Centre international des motivations CIM. Selon les organisateurs, l'objectif était de sensibiliser ces jeunes filles sur la prévention du cancer du sein. Plus de détails dans ces reportages d'André Katendenga Lamoulomé.
Environ 50 jeunes filles de la ville de Kananga ont pris part à cette conférence débat placée sous les thèmes « Main dans la main, tous ensemble contre les cancers du sein ». Cette rencontre était animée par Dr Papine Toumba, médecin coordonnateur du Programme national de santé de la reproduction PNSR. Selon les organisateurs, l'objectif était de sensibiliser les filles sur la prévention et l'importance de se faire dépister contre les cancers du sein. La conférence était bénéfique pour les participantes. Éminence Bakumbane, l'une d'elles, affirme que les échanges ont éveillé leur conscience dans la lutte contre le cancer du sein.
Généralement, la plupart pensent que si la personne est déjà atteinte du cancer du sein, déjà c'est la mort. Mais en prenant part à cette conférence, je me suis rendu compte que c'est une maladie qui peut être curable dans la mesure où on s'est rendu à l'hôpital le plus tôt possible pour le dépistage précoce, mais aussi on doit veiller à l'autopalpation.
C'est depuis mi-octobre que l'ONG Amour Plus et Femmes Acacia travaillent en consortium pour combattre les cancers du sein chez les jeunes filles. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
En plus bref, avant d'aller plus loin, journée noire hier dans la ville de Bukavu. 14 personnes ont péri à la suite d'un incendie qui s'est produit au quartier Mossala Founou sur avenue Maïlendeleo dans la commune de Kadutu. Le feu s'est déclaré vers minuit. Les victimes sont issues de deux familles qui vivaient dans une même concession. L'origine du feu demeure inconnue selon les habitants du quartier que nous avons contacté. Ce n'est pas fini. Un autre incendie s'est déclaré à Lugushwa dans les territoires de Mwenga, toujours dans le sud Kivu. Là, plus de 400 maisons ont été consumées. Les dégâts matériels sont donc importants selon les acteurs du cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwenga. Cette structure appelle les autorités, les humanitaires et tous les hommes de bonne volonté à venir en aide aux familles sinistrées.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara est donné largement vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, d'après les résultats provisoires proclamés hier soir par la Commission électorale indépendante. Il arrive en tête avec 89,77% de voix. Parmi ses adversaires, Jean-Louis Billon a reconnu sa défaite avant même la fin de la proclamation des résultats. Deux autres candidates, Henriette Lagou et Simone et Yvette Gbagbo, ont également réagi.
L'invité.
Notre invité ce matin est le député national Christian Mwando. Il est président du groupe parlementaire Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Dans cette interview accordée à Radio Kapi, l'élu de Moba dans les Tanganyika revient sur la crise à l'Assemblée nationale, mais aussi explique l'organisation de sa structure pour occuper les postes de rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement qui revient à l'opposition. Christian Mwando s'entretient avec Grace Hamzati.
Christian Mwando, bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de cette crise que beaucoup considèrent des majeures au sein de l'Assemblée nationale depuis cette rentrée parlementaire?
Oui, je pense que je mets ça sur le compte de la distraction dans laquelle nous a amené la majorité de l'Union sacrée, parce qu'on n'avait pas besoin de cette crise. Et vous voyez bien que ça fait déjà 45 jours, la moitié de la session, qu'on n'a pas pu travailler, en train de tournoyer à cause de cette crise. Il ne reste que la moitié de la session. On a fait un mois et demi presque sans rien faire. Je pense que il est temps qu'on accélère les choses et qu'on puisse vraiment se remettre au travail, parce que c'est une session budgétaire. Nous avons perdu beaucoup de temps avec les pétitions. Et maintenant, on se retrouve dans des cas où il y a plein de candidats et on n'arrive pas à décider qui va diriger l'Assemblée nationale, et les gens perdent beaucoup de temps en train de se tirailler.
Le poste des rapporteurs adjoints revient à l'opposition et vous venez de choisir la députée Clotilde Mutita pour succéder à Madame Dominique Munongo. Comment êtes-vous arrivé à ce choix?
Oui, ce choix a été fait en toute démocratie, en toute transparence, parce qu'on a procédé aux primaires en interne. C'est elle qui a été désignée par l'ensemble des députés, parce que au niveau de Ensemble et de Avançons MS, les deux formations qui constituent notre groupe parlementaire, on a jugé opportun de laisser cette affaire être réglée par les parlementaires eux-mêmes, par les députés. Donc, c'est le choix des députés. Je pense que c'est un choix judicieux, dans la mesure où Ensemble tient d'abord aussi à respecter le genre. Nous avons perdu une femme au bureau, nous voulons la remplacer par une autre femme, de manière à garder quand même un équilibre du genre au sein du bureau. Et c'est aussi pour nous l'occasion de rappeler que l'opposition doit être représentée au bureau comme opposition. Il n'est pas question qu'on accepte encore qu'on puisse fabriquer des gens de la majorité pour venir les présenter comme opposants. Nous avons vu la fois passée, on a essayé de fabriquer Mutamba. Après avoir échoué au niveau de rapporteur adjoint, il a directement été repris au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons donc que deux groupes qui sont dans l'opposition. C'est Ensemble, Avançons MS, qui constitue un seul groupe parlementaire, parce que le troisième groupe qui est Nouvel Élan, leur président est au gouvernement, M. Mouzito. Donc, ils ont quitté l'opposition. Nous avons Dipro de Mutamba, qui eux aussi participent au gouvernement et appuie le gouvernement. Et la cinquième personne, c'était l'honorable Matata, qui est en exil. Donc, tous ces groupes-là étant hors course, il n'y a que le groupe parlementaire Ensemble qui peut présenter un candidat qui est le représentant de l'opposition.
Mais il y a aussi les non-inscrits.
Les non-inscrits, en réalité, à moins qu'il y ait d'autres interprétations, parce qu'on nous parle maintenant des interprétations des arrêts de la Cour constitutionnelle et autres. Mais dans le sens strict du règlement intérieur, ce sont les groupes parlementaires qui proposent les candidats. En tout état de cause, nous avons demandé à tous ceux qui ont été élus sur les listes de Ensemble pour la République de venir participer aux primaires. On a fermé la porte à personne. Donc, il serait tout à fait anormal qu'un membre effectif d'Ensemble qui, pour des raisons personnelles, n'est pas membre du groupe parlementaire et a choisi de se faire non inscrit, qu'il aille représenter Ensemble. Non, ça n'a aucun sens.
Alors, pensez-vous que le budget 2026 sera examiné et adopté dans le peu de temps qui vous reste?
Mais c'est une obligation, parce que si le budget n'est pas examiné, le pays n'aura pas les moyens de fonctionner. Et ça, on ne peut pas le permettre. Le budget sera bel et bien examiné et adopté. À défaut, si ce n'est pas fait à temps, je crois que l'Assemblée nationale, le président qui sera élu, a la possibilité de convoquer une session extraordinaire pour pouvoir traiter ça hors délai.
Quel message avez-vous à lancer à tous les députés par rapport à cette crise, mais aussi et surtout par rapport aux priorités de la population?
Le message est simple, c'est qu'on doit mettre le plus tôt possible fin à cette crise en complétant le bureau. C'est également de leur dire que le jeu démocratique est un jeu sérieux qui demande quand même le respect des règles et des principes. Aujourd'hui, nous avons une opposition institutionnelle que nous représentons et lorsqu'il y a un poste qui est réservé à l'opposition, il faut que ce soit un opposant qui l'occupe. Qu'on arrête un peu avec ces jeux de fabriquer des gens de la majorité pour venir prendre les postes de l'opposition. En faveur de la population, on peut dire simplement que la population doit considérer que nous sommes là et nous veillons au grain et nous allons veiller à ce que ce budget soit voté le plus tôt possible et en tenant compte des besoins de la population et non pas voir ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire le budget où la plupart des fonds sont dépensés dans des dépenses inutiles telles que des voyages, telles que des matchs de football et ainsi de suite.
Christian Mando, je vous remercie.
Merci à vous.
C'est la fin de notre grande édition du journal du matin. Merci de nous avoir suivis.